l'actualité sur VOA Afrique, Facebook, YouTube.
Bienvenue sur votre émission hebdomadaire Sporama sur VOA Afrique. Une vingtaine de minutes pour faire le tour de l'actu sport de la semaine. Élisée Mbati en direct avec vous et pour m'accompagner. Lawal Team Kosuro comme d'habitude dans ce studio. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir et bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
On prend la direction de Dakar au Sénégal où se trouve Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
En direct de Casablanca au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Valdo Simon Yamba Yamba est à Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Heureux de vous retrouver une fois de plus.
Ce soir, nous allons parler de la CAN féminine de handball senior qui se déroule actuellement à Yaoundé au Cameroun. Et puis l'Euro bat son plein en Europe tout comme la Copa en Amérique. Bienvenue à tous. Démarré vendredi, le championnat d'Europe des nations de football Euro 2020 se poursuit dans 11 pays. Une belle innovation pour donner plus de saveur à cette compétition qui a débuté par la large victoire de l'Italie contre la Turquie 3-0 au Stadio Olimpico de Rome. Valdo, belle entame également pour la Belgique qu'il faut surveiller de près.
Élisée, avec un Romelu Lukaku auteur d'un doublé, les Diables Rouges font une belle entame dans cette compétition. Ils confirment ainsi les statuts des favoris avec lesquels ils sont annoncés dans cette compétition, un statut qu'ils ont d'ailleurs l'habitude de bien défendre en phase de groupe, toute compétition confondue depuis bien longtemps déjà. Mais la seule grande difficulté est celle de ne pas les voir aller avec jusqu'au bout. Comme qui dirait que Lukaku et les siens sont attendus au plus haut sommet de cette compétition, la Belgique a l'effectif pour et se doit de relever les défis face aux autres sérieux prétendants au titre. Et cette belle entame de la Belgique est loin d'être une surprise, c'est plutôt le contraire qui aurait surpris. Plus d'un, je crois que la vraie compétition pour des nations telles la Belgique va commencer après la phase des groupes.
Amédine, une autre équipe à surveiller et de très près même, l'Angleterre qui est sortie victorieuse de l'un des matchs chocs de cette première journée.
Oui, Élisée, l'Angleterre a bien entamé son Euro en dominant la Croatie sur le score 2-0, un but marqué par Sterling. Il faut dire que cette victoire des Anglais est très importante, Élisée, car c'est la première fois que l'Angleterre remporte son premier match dans l'Euro. Et puis en face, il avait le vice-champion du monde, hein, la Croatie. Mais les Anglais se sont imposés sans pour autant forcer, car ils ont maîtrisé parfaitement cette rencontre. Il faut dire que ils ont montré un jeu cohérent. Il faut compter avec cette équipe de l'Angleterre. Il faut même dire qu'avec cette victoire, l'Angleterre prend la tête du groupe D avec 3 points, Élisée.
Lawal, outre l'Angleterre, la France et le Portugal font aussi office de favoris.
Oui, Élisée, au regard des prestations des deux équipes dernièrement, on peut dire que les deux sont font office de favoris. Mais n'oubliez pas l'Allemagne dans ce groupe qui n'en est pas loin d'être favori dans ce groupe. Souvenez-vous que les trois pays-là tiennent véritablement le groupe et ça fait de ce groupe un groupe carrément de la mort. Seule la Hongrie pouvait faire office de petit poussé dans le groupe, mais quand on sait que les petites équipes, quand elles rencontrent les grands, se surpassent. Et rappelez-vous, les Irlandais, pour une courte participation en Coupe du Monde, ce qu'ils ont créé comme sensation, les Gallois aussi. Donc, fondamentalement, c'est un groupe assez relevé et les confrontations entre les différentes équipes donnent la France légèrement au-dessus des deux autres, mais ça va pas être aussi facile. La France voudrait prendre sa revanche sur le Portugal de Cristiano Ronaldo par rapport à l'Euro qui lui a chippé à domicile. Les Allemands voudront prendre leur revanche sur la France qui les a battus en quart de finale pendant la dernière Coupe du Monde, remportée à la suite par la France. On verra bien ce qui va se passer dans ce groupe, mais c'est un groupe relativement bien ouvert et difficile. Impossible pourra être un pronostic par rapport à ce groupe.
Amine, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, qui ne sont pas aussi fortes qu'avant, ont les moyens d'aller loin.
Visiblement, d'autres nations émergent par rapport à ces trois noms que vous avez cités, Élisée.
C'est voir la France qui reste sur une dynamique très positive depuis son sacre en Coupe du Monde, qui s'est renforcée avec l'arrivée de Benzema. L'Angleterre qui s'est bonifiée avec de très nombreux jeunes talentueux qui font les beaux jours des grands clubs de Première Ligue. Sans oublier la Belgique qui fait figure d'épouvantail. Mais attention, il ne faut surtout pas écarter l'Italie, qui a fait une entrée très convaincante dans la compétition, qui travaille dans la continuité depuis 2 ans et demi avec Roberto Mancini comme sélectionneur. L'Allemagne, avec le retour de Hummels et de Thomas Müller, sans oublier le noyau dur de l'équipe du Bayern qui a marché sur l'Europe la saison dernière. Et puis, l'Espagne est plutôt en position d'outsider, mais très en retrait. Les Espagnols avec Luis Enrique n'ont pas de joueurs dominants dans chaque poste, mais peut-être que les vertus du collectif et d'une culture de jeu vont peut-être sublimer la Roja. Mais visiblement, on parlera de ces nations-là au fur et à mesure des rencontres et on verra dans quelle mesure ils pourront se mesurer à ce défi face aux Français, aux Anglais et surtout aux Belges.
On reste avec vous, Amine, pour parler de la Copa América au Brésil. Finalement, la compétition a bien démarré malgré la situation sanitaire dramatique dans le pays.
Une Copa América qui a failli ne pas avoir lieu puisqu'il y a eu un mouvement de contestation de partis politiques étant donné la situation épidémiologique au Brésil. La Cour suprême a tranché, la compétition peut avoir lieu avec un Brésil qui part favori, mais un Brésil où des joueurs ne voulaient pas disputer la compétition à domicile. Donc on verra dans quelle mesure ils seront motivés pour aller jusqu'au bout. Ils auront affaire à une équipe d'Argentine toujours à la recherche d'un sacre depuis 1993, d'un Chili, d'une Colombie, d'un Uruguay, d'un Paraguay. Il n'y aura pas de nation en dehors de la zone CONMEBOL invitée dans cette compétition pour des raisons sanitaires, mais cela nous proposera 3 semaines palpitantes avec 2 groupes de 5, les quarts de finale, les demi-finales et éventuellement une finale qui pourrait être un remake de l'édition 2019 qui avait lieu déjà au Brésil et qui avait vu la sélection Auriverde triompher sous la houlette, sous la direction d'un Neymar des grands jours.
Amédine, si, Amine le disait, belle entame du pays hôte, le Brésil, dans la peau d'un favori.
Oui, Élysée, le Brésil, pays hôte de la Copa América, a démarré cette compétition de la plus belle des manières en surclassant le Venezuela sur le score de 3-0. Le défenseur central du Paris Saint-Germain, Marquinhos, a montré la voie à suivre à ses partenaires en ouvrant le score à la 23e minute. Il sera suivi par son coéquipier du Paris Saint-Germain, Neymar, qui a doublé la mise à la 64e minute sur penalty. Gabriel va corser l'addition à 1 minute de la fin de la rencontre, c'est-à-dire exactement à la 89e minute. Avec cette belle victoire, le Brésil montre non seulement qu'il est le favori de cette compétition, mais qu'il veut garder ce trophée qu'il avait gagné en 2019, Élysée.
Valdo, en terre ennemie, l'Argentine aussi est attendue avec son Messi.
Élysée, lorsqu'on s'appelle l'Argentine, quelle que soit la compétition, seule la participation ne suffit pas. Prendre part à une compétition est synonyme du titre que vous avez l'obligation de l'emporter, tel est le cas avec cette Copa América et cette Argentine de Lionel Messi qui ne gagne pas avec l'Albi Céleste et qui a d'ailleurs commencé à régresser après 2 finales perdues dans cette compétition. Jusque-là, elle a fini 3e lors de la dernière édition. Cette édition serait la dernière pour Léo qui n'aura rien offert à l'Argentine malgré son immense talent et ses performances en club. Peut-être que cette fois, c'est la bonne puisqu'il y a une motivation de plus, celle de jouer en mémoire de Diego Armando Maradona qui n'est plus de cette terre. L'emporter serait idéal pour Lionel Messi de lui rendre un hommage mérité avec un titre, ce qui va lui permettre de vaincre enfin cette malédiction qui lui colle à la peau. Sinon, ça sera la seule faiblesse de Messi qu'est de finale manquée avec l'Argentine.
Et justement, les deux équipes s'affrontent aujourd'hui. Lawal, l'outsider qu'il faut le plus craindre reste le Chili.
Le Chili est à craindre fortement parce que quand on se rappelle les trois dernières éditions de la Copa, le Chili en a raflé 2 de façon consécutive. Le Brésil est venu jouer au trouble fait et il faut véritablement attendre ce qui pourra se passer. L'Argentine est là également en embuscade parce que Léo Messi voudra bien pour sa sortie, pour sa retraite, c'est certainement avoir un trophée avec son équipe nationale. Il va également se battre. Et la compétition sera assez relevée et on attend de voir véritablement comment les autres vont se débrouiller pour empêcher le Brésil de rempiler, pour empêcher le Chili de d'avoir un sacre, un troisième sacre en quatre éditions, et l'Argentine empêcher Léo Messi de soulever enfin un trophée national par rapport à son équipe. La compétition sera assez intéressante, assez dure aussi. En Afrique, on devrait connaître ce soir le dernier qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu en janvier prochain au Cameroun. Mais au moment où on entrait en studio, il y avait toujours un imbroglio par rapport à ce match Sierra Leone-Bénin. Le match programmé à 16h temps universel n'a pas encore démarré et pour cause, 6 cas positifs au Covid ont été détectés dans l'effectif Sierra Leonais. Et aux dernières nouvelles, la CAF exige que soit forcément joué le match. Lawal, à quoi doit-on s'attendre dans le cas d'espèce?
Dans le cas d'espèce, Élisée, nous estimons que les responsabilités doivent être maintenant situées et on doit pouvoir sanctionner comme il se doit. Si c'est au niveau des Béninois que le problème se pose, qu'on puisse sanctionner les Béninois.
Mais la CAF a envoyé son expert Covid.
C'est là même tout l'imbroglio. Si la CAF a envoyé son expert Covid et que à quelques minutes du match, c'est à ce moment-là qu'on fait sortir les tests positifs, qu'on annonce que tel nombre est positif, encore que là, il y a un problème. Parce que les tests devaient être déjà annoncés 3 heures avant le match. Ça veut dire qu'au niveau de l'organisation, la CAF a tout zéro. La CAF est mal organisée et les officiers de la CAF doivent pouvoir changer de métier, aller faire autre chose carrément que de chercher à organiser des compétitions de cette nature-là. Parce qu'on ne peut pas concevoir que
pour... À la veille, il y avait
des tests qui ont été faits. Déjà que les Sierra Leonais ont passé 6 heures à la frontière avant de pouvoir accéder en terre guinéenne parce qu'ils n'ont pas pu sortir leur résultat de test Covid. En 6 heures, ça veut dire qu'il y a quelque part une volonté de ne pas jouer le match parce qu'ils ont certainement peur de le perdre. Et on peut les comprendre. Il y a 25 ans qu'ils sont allés à une CAN en 96 en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, être à 1 mm d'une autre CAN, ils veulent passer par tous les moyens pour pouvoir être au Cameroun.
Voilà. Mais que il fallait que décide autrement que le match soit joué coûte que coûte.
Le match sera joué. Et si la Sierra Leone gagnait, elle sera qualifiée et puis c'est fini. Mais il faut qu'on finisse avec cette affaire-là. Parce qu'on a trop attendu ce match-là. Ça devrait se jouer depuis le 30 mars. On a dû le reporter. On est resté là à faire des simagrées. Le TAS même n'a pas été en mesure de prendre une décision. On laisse le soin à la CAF de sanctionner. Qui doit être sanctionné? Je trouve que c'est carrément aberrant. C'est une affliction que les situations de ce genre se sentent en Afrique. Il est important même, si on devrait vous offusquer pour le tirage au sort de la CAN, on envoie des officiels de la FIFA. Mais je trouve que avec ce qui se passe là, il vaut mieux laisser un certain nombre de prérogatives aux autres qui savent organiser les choses que de faire ces bêtises-là qui ne font pas honneur à l'Afrique, Élisée.
Merci Lawal. Et en attendant le tirage au sort, entre-temps reporté, vous l'avez dit, certaines sélections ont profité de cette période pour se mettre en jambes à travers des matchs amicaux. Une longue période qui a permis à certains de livrer 2 matchs et d'autres 3, à l'image de l'Algérie qui a fini par une victoire face à la Tunisie. 3 victoires en autant de matchs pour les champions d'Afrique en titre qui prolongent leur invincibilité à 27 matchs. Les Fenech détiennent désormais seul le record d'invincibilité sur le continent qu'ils partageaient avec la Côte d'Ivoire. La Tunisie, de son côté, jouera son 3e match mercredi face au Mali. Alors, à Médine, le Sénégal aussi a réussi un sans faute pour ces 2 matchs. 2 victoires. Et la dernière, c'était face au Cap-Vert.
Tout à fait, Élisée. Le Sénégal a fait le carton plein en remportant ses 2 matchs face à la Zambie et au Cap-Vert. Pour cette dernière rencontre face au Requin Bleu, les Lions se sont imposés sur le score de 2-0 grâce à Garnegay et Sadio Mané. Il faut dire que le bilan est très très positif hein, car le Sénégal a non seulement gagné ces 2 matchs, mais il les a gagnés avec la manière en marquant 5 buts et encaissé 1 seul. Et sur les 5 buts inscrits, Élisée, les 3 ont été marqués sur des balles arrêtées qui étaient un peu le maillon faible de cette équipe nationale du Sénégal. D'ailleurs, Garnegay a réussi à marquer un superbe coup franc, un chef-d'œuvre Il faut dire, Élisée, que le Sénégal n'avait plus marqué un coup franc direct depuis 5 ans, hein, car le dernier but sur coup franc direct remonte à la CAN 2015. C'était un but d'Henri Sévé lors de la deuxième journée de la CAN 2017 contre le Zimbabwe. C'était à Franceville. Il faut dire que Aliou Cissé a profité de ces deux rencontres pour tester la paire Kalilou Koulibaly Abdou Diallo, qui a donné satisfaction. Au milieu du terrain également, le duo Garnegué-Nampalis a fonctionné à merveille. Il faut dire également, Élisée, que le jeu collectif des Lions, qui était vraiment critiqué, a eu beaucoup d'améliorations. Les spectateurs qui étaient et qui s'étaient déplacés ont été vraiment satisfaits du jeu produit par les Lions, pour vous dire que ces deux matchs amicaux ont été une réussite pour les Lions, mais également pour le sélectionneur Aliou Cissé, Élisée.
Amine, un sans faute aussi pour le Maroc devant le Ghana et le Burkina Faso.
Deux victoires, mais sans vraiment convaincre de la part de l'équipe du Maroc. 1-0 à chaque fois face au Ghana et au Burkina Faso. Le résultat plaide pour la continuité du projet de Wahid Halilhodžić, mais la manière laisse à désirer. Les supporters au Maroc ne sont pas convaincus. Ils peuvent comparer le travail du prédécesseur de Wahid avec celui qu'il a entrepris. Heureusement que quelques individualités le sauvent pour l'instant, notamment Achraf Hakimi, auteur du but de la victoire contre le Burkina Faso, un but qu'il a dédicacé à son coéquipier de l'Inter de Milan, Christensen. Le Maroc va devoir maintenant effacer ses tests amicaux approximatifs et se consacrer à l'objectif initial, se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça passera par deux rencontres pleines face au Soudan et à la Guinée, à domicile face au Crocodile du Nil et lors d'un périlleux déplacement à Conakry face au Sélection nationale.
Valdo, en revanche, c'est toujours un petit peu laborieux pour la RDC qui a obtenu de justesse le nul contre le Mali après avoir perdu son premier match contre la Tunisie. Le nouveau sélectionneur Hector Cooper a donc du travail.
Le chantier est très profond dans cette sélection de la RDC qui, au-delà de certaines absences, a affiché un visage peu reluisant après ces deux matchs amicaux qui n'ont fait mieux que montrer à Cooper l'identité d'une sélection qui doit être reconstruite dans plusieurs compartiments, tant sur le terrain qu'en dehors. Les Léopards de la RDC qui peuvent afficher un bon visage et perdre les matchs comme c'est le cas contre la Tunisie et carrément le contraire contre les Mali, puisqu'ils ont réussi à arracher les nuls au terme d'un match qui les a vus être dominés pratiquement de bout en bout. L'issue de ces deux matchs amicaux n'a pas dérogé à une certaine logique qui caractérise depuis peu cette sélection de la RDC qui ne gagne toujours pas en amical. Du positif, il y en a eu, avec notamment certains joueurs qui ont été appelés en sélection pour une première fois et qui ont là eu l'occasion de se faire une place au sein de cette sélection pourvu que le retour de certains cadres ne les éloigne pas.
Après cette fenêtre FIFA, place aux interclubs de la CAF avec les demi-finales aller. Et en Ligue des Champions, l'Espérance de Tunis reçoit le tenant du titre à la Ligue du Caire, Lawal. La crosse affiche, pour ne pas dire, la finale avant la lettre.
Finale avant la lettre. Et les deux équipes sont habituées l'une de l'autre. Ça va être très 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 rude. Le match sera assez intense et malheur à celui qui perdra cette manche aller. Le tenant du titre va vouloir conserver son bien alors que l'Espérance va chercher à détrôner donc à la Ligue et ça va être très 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 serré, Élisée. Et je le disais, malheur aux vaincus de cette manche aller parce qu'au retour, celui qui aura gagné et remporté le match aller va vouloir conserver son bien.
Voilà. Amine Birouko, prudence pour le Wydad contre les Sud-Africains de Kaizer Chiefs en Ligue des Champions pendant que le Raja jouera gros face aux Égyptiens de Pyramide en Coupe de la Confédération.
Faudra se méfier de ces équipes engagées contre les clubs marocains, d'autant plus que le championnat marocain bat son plein, que les joueurs sont obligés de se mettre, je dirais, à rude épreuve avec un match tous les trois jours. Et il ne faut pas oublier que certains étaient à la disposition des équipes nationales A et A prime. Mais visiblement, l'OAC a une marge contre les Sud-Africains de Kaizer Chiefs, un match qu'il ne faudra surtout pas louper au complexe Mohamed V lors de la manche aller. Et puis, il faudra, pour le Raja en Coupe de la CAF, rééditer les deux performances qu'il avait fait en phase de poule contre ces Égyptiens de Pyramides. On se rappelle que le Raja avait gagné à Casablanca 2-0 et surtout triomphé au Caire sur le score de 3-0. mais les rencontres de football se suivent et ne se ressemblent pas. Et l'équipe de Pyramids a fait peau neuve avec un nouveau staff technique et visiblement des joueurs beaucoup plus motivés.
La seconde demi-finale allée en Coupe de la Confédération se jouera en Algérie entre la JS Kabylie et les Camerounais du Coton Sport de Garoua. Les matchs retour sont prévus une semaine après. On termine cette émission par les sports demain. D'abord, le handball avec la Coupe d'Afrique féminine senior qui se déroule actuellement à Yaoundé au Cameroun après la phase de poule. Place maintenant au match à élimination directe. Valdo et la RDC jouera l'Angola, le grandissime favori en quart de finale.
En quart de finale, oui, mais les Léopards de la RDC qui se devaient d'éviter l'une des favorites de cette Coupe d'Afrique des Nations de handball n'ont pas été efficaces et doivent passer par une dure épreuve en quart de finale. Elles qui avaient pourtant bien entamé cette compétition avec 2 victoires, mais elles ont connu un coup d'arrêt face aux Camerounais qui ont su faire la différence malgré l'égalité de 10 buts à la mi-temps. 26-21 au coup de sifflet final, battues, les filles de la RDC doivent sortir les grands jeux pour en venir à bout de la sélection championne en titre, la très joueuse sélection angolaise, l'enjeu étant une place en demi-finale synonyme d'une qualification au prochain championnat du monde, alors que les nations, les 2, y reviennent. Ça s'annonce très compliqué, ces quarts de finale qui doit éliminer l'une des 2. Il faut au Léopard dames, leur capitaine Christiane Moisessa en pleine forme pour surmonter cette épreuve qui est loin d'être infranchissable.
Le Sénégal, déjà en quart, a mal négocié son dernier match de poule et devra faire attention au Congo-Brazzaville.
Tout à fait, Élisée. Le Sénégal a mal négocié sa 3e sortie dans cette 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin en s'inclinant face à la Tunisie sur le score de 30-13. Mais sachez, Élisée, comme les Lions avaient déjà composté leur ticket pour les quarts de finale après leurs 2 succès en face respectivement au Madagascar et à la Guinée-Conakry, le coach des Lions, Frédéric Boujan, a préféré mettre une équipe bis, une équipe B, face à la Tunisie. En effet, le technicien français a fait reposer ses cadres pour préparer le quart de finale face au Congo-Brazzaville. Ce match est prévu ce mardi. Je rappelle, Élisée, que le Sénégal est vice-champion d'Afrique et que les Lions veulent mettre fin à la suprématie de l'Angola. Et cela passe par une qualification en demi-finale, Élisée.
Merci Amédine. Pour les autres affiches de ces quarts de finale, le pays hôte, le Cameroun, croisera le Nigeria et la Tunisie, la Guinée. Beach volley à présent avec les qualifications pour les Jeux Olympiques qui se tiendront au Maroc. Amine Birouk. Une semaine de compétition pour 24 équipes masculines et 17 féminines pour une seule place dans chacune des catégories.
Agadir va accueillir cette compétition du 19 au 28 juin prochain. L'objectif pour les pays présents est d'être en finale puisque 2 doublettes par catégorie vont se qualifier pour la prochaine édition des Jeux Olympiques dans un sport de plus en plus pratiqué sur notre continent, un sport très spectaculaire. Les équipes marocaines auront l'avantage de figurer et d'évoluer à domicile. Elles ont leur repère dans la ville d'Agadir, mais d'autres nations ont des habitudes et une tradition dans ce domaine. Donc on verra dans quelle mesure on aura les représentants de notre continent. Et ces équipes seront dans leur lancée après l'étape d'Agadir pour bien préparer l'épreuve de Tokyo où l'Afrique viendra pour faire un peu mieux qu'à Rio et surtout pas de la figuration.
Valdo, le challenge s'annonce indécis pour la RDC au vu du nombre de places qualificatives.
Exactement, Élisée, ces éliminatoires s'annoncent un défi pour les Léopards de la RDC qui toutefois peuvent bien saisir leur chance. Question de s'appliquer et surtout de se présenter au Maroc sans complexe. La RDC a déjà réussi une belle performance avec la paire Salasala et Peso qui, pour leur premier championnat du monde en 2017 en Chine, les 2 Congolais avaient fait de la RDC la seule nation africaine à passer le premier tour et les 2 athlètes sont considérés comme fer de lance de cette discipline en République démocratique du Congo chez les messieurs. Pendant ces temps, il y a encore du chemin à faire chez les filles qui ne sont pas mal puisqu'elles ont déjà réussi à éliminer le Mozambique en demi-finale d'une compétition qualificative au championnat du monde à Kinshasa et elles ont manqué de peu s'offrir les titres devant les Égyptiennes faute d'expérience. Ce challenge est donc une occasion de se frotter avec les meilleures nations africaines de beach volley et pourquoi pas obtenir les tickets pour les Jeux Olympiques.
Sporama, c'est fini. Prenez le rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Au revoir.